Tananame Risha Bedida. C'est la raison pour laquelle le début de la Mishnah, où il s'agit de l'acquisition, la femme aussi est désignée comme sujet. Vedit Nea Ishkone Umakne, on aurait pu formuler ainsi, l'homme acquiert sa femme en mariage. Et si le mariage réussit, c'est très bien. Mais il fait acquérir sa femme à elle-même, dans le cas du divorce ou du veuvage. La Gemara répond, Mishum Deika Mitatabaal, parce qu'il y a le cas du veuvage, Mitatabaal, la mort du mari, Velav Ihu Kamakne. Et lorsque le mari est mort, ce n'est pas lui qui fait acquérir sa femme à elle-même. Mishmaya Hademaknela. C'est Dieu qui décide. Tout ça est aussi pas simple. Mais enfin, je vais essayer de simplifier. Voilà ce que dit la Gemara. Nous avons un conflit de formulation. Lorsque la Mishnah parle de l'acte d'acquisition d'une femme en mariage, c'est la femme qui est sujet. Lorsque la Mishnah parle de l'autre aspect du mariage, le fait que cette femme qui était pnouya, libre en principe, est interdite à d'autres, alors c'est l'homme qui est sujet de la procédure du mariage. Et la Gemara demande. Mais on aurait pu dire, ou bien dans la première Mishnah, l'homme acquiert, au lieu de dire la femme est acquise, femme sujet du mariage, ou bien dans la deuxième Mishnah, on aurait pu dire l'homme acquiert au lieu de dire l'homme consacre. C'est la relation entre ces deux questions, la femme ou l'homme comme sujet, et le verbe acquérir ou consacrer. La Gemara a répondu. Étant donné que notre Mishnah veut dire qu'il y a et acquisition de la femme par l'homme au niveau du mariage, et aussi l'éventualité de l'acquisition de la femme par elle-même, soit par le divorce, soit par le veuvage, et donc, de façon implicite, par le mariage s'il est réussi, alors il fallait que le sujet de l'ensemble de la procédure, et l'une et l'autre, soit la femme. La Gemara a objecté, mais lorsque l'homme divorce, ou lorsque l'homme meurt et que la femme est veuve, eh bien, on pourrait dire d'une certaine manière que c'est lui qui redonne son autonomie à cette femme. La Gemara a répondu, ce n'est pas le cas, à cause du cas du veuvage. Dans le veuvage, ce n'est pas l'homme qui a décidé que la femme acquérerait son etzem, son identité, son essence, c'est Dieu qui l'a décidé. Et cela veut dire que ce n'est pas du tout entre les mains de l'homme. Je voudrais, avant d'aborder l'analyse de cette question, vous raconter comment, dans les écoles talmudiques, on explique ce problème sous forme d'anecdote. Et vous savez que, d'après la législation talmudique, c'est l'homme qui a l'initiative rituelle de l'acte de divorce. Pourquoi? Parce que, d'après ce que nous avons appris dans la Gemara, le fait qu'une femme soit consacrée à un homme procède de la volonté du mari. C'est le mari qui décide que telle femme sera interdite à d'autres, en acceptant que la femme accepte d'être épousée par lui. C'est ce qui ressort de la Gemara. Par conséquent, puisque c'est le mari, dans sa volonté, qui a interdit cette femme aux autres hommes, lui seul peut la rendre permise à d'autres hommes. Et c'est la raison pour laquelle l'initiative de la procédure du divorce appartient au mari. Est-ce que c'est bien clair? Il s'agit là d'un acte de consécration qui n'a de réalité légale que par la volonté du mari. Le fait du mariage n'a de réalité effective que par la volonté de la femme, ce qui est établi par la première Mishnah. Mais la consécration légale de l'interdiction de cette femme à d'autres procède de la volonté du mari. Par conséquent, sa volonté seule peut défaire ce qu'elle a fait. C'est la raison pour laquelle nous avons une règle importante, difficile mais importante, que l'initiative légale du divorce appartient au mari. Or, il arrive que d'après la loi rabbinique elle-même, la femme a le droit, pour X raisons que la législation établit, la femme a le droit d'obtenir le divorce. Et si légalement la volonté du mari ne joue pas, c'est-à-dire si légalement le mari ne veut pas exercer sa volonté pour donner le divorce, on est devant une impasse juridique. Vous comprenez ce que je veux dire? Et cela arrive souvent. C'est-à-dire, en réalité, le tribunal rabbinique, de façon effective et convaincue que le divorce doit être déclaré pour les droits de la femme. Et dans l'humour du Talmud, nous avons des exemples types. Par exemple, si la femme vient dire devant un tribunal rabbinique que son mari n'a pas une bonne odeur dans la bouche, ça arrive. Alors, on lui conseille d'abord de, je cite la Gemara, de mâcher du poivre ou des clous de girofle. Et puis ça ne marche pas quand même. La mauvaise odeur subsiste. Alors le tribunal rabbinique a le droit, dans ce cas, de décréter que le divorce doit être prononcé. Parce que le mariage est impossible. Enfin, je veux dire, parce que la vie en commun devient difficile. Alors ne croyez pas que la législation talmudique ne protège pas les droits de la femme. Ça va jusque-là. Et c'est effectivement ce que les tribunaux rabbiniques doivent appliquer. Mais, du point de vue légal, seule la volonté du mari peut défaire ce qu'elle a fait, c'est-à-dire le hekdesh, la consécration de la femme à son mari. Alors quoi faire? En général, lorsque les juifs étaient soumis à la législation rabbinique et n'étaient pas, si vous voulez, de ces communautés de diaspora où c'est la législation du pays goy qui décide, le tribunal rabbinique avait la procédure suivante. On attachait deux agents de police au mari, et quel que soit le manquement à quelque règlement que ce soit, il était puni de bastonnade. Jusqu'à ce qu'il dise, ça c'est à cause de ma femme, et qu'il la divorce. Vous comprenez la procédure? Par exemple, enfin je ne sais pas quoi, vous savez, le Shulchan Aruch, c'est très compliqué. Il y a des règles de détail qui sont très difficiles à appliquer. Et en général, on ne punit pas de bastonnade pour tel ou tel détail. Mais lorsque le tribunal rabbinique décidait qu'une femme devait être divorcée, bien que le mari ne décide pas, pour quelque raison que ce soit, il était jaloux, méchant, intéré, tout ce que vous voudrez, ne décide pas de dire « je délie ce que ma volonté a lié », alors, eh bien, comme je vous ai dit, on le punissait de malkout, de bastonnade, pour quelque manquement à quelque règle que ce soit, ce qu'on ne fait jamais, d'ailleurs, jusqu'à ce qu'ils disent, bon, eh bien, je ne peux plus supporter, alors je décide, elle est libre. Alors on pourrait dire, c'est quand même pas sa volonté qui a joué, puisqu'il était obligé par les bastonnades successives. Vous comprenez le problème. Mais le Talmud explique qu'en réalité, son âme était bonne. En réalité, s'il n'avait pas de mauvais penchants, il aurait voulu, puisqu'il faut. Mais que il fallait que sa bonne volonté soit libérée par autant d'électrochocs qu'il y avait de bastonnades. Alors, en fin de compte, finalement, il décidait, bien, je la libère et on ne le bastonnait plus. La Gemara nous dit ici qu'effectivement, dans le cas du divorce, à la limite, c'est la volonté du mari qui joue. Même cette volonté implicite, inconsciente, et qu'il faut libérer par la procédure que je vous ai dite. Mais dans le cas du veuvage, ce n'était pas du tout le mari qui a décidé. C'est Dieu qui a décidé. Et voilà l'anecdote dont je voulais vous parler. On raconte qu'un jour, une femme est venue demander le divorce devant un tribunal rabbinique. Son mari était Talmid Chacham, c'est-à-dire qu'il savait lire la Mishnah. Et il ne voulait pas donner le divorce. Alors le rabbin lui a dit, tu sais lire la Mishnah. La femme est acquise par trois procédures. Kesef, Shtar ou Bia. Vekona et Ratzma, Beget ou Bmitat Avaral. Et elle s'acquiert elle-même par deux procédures. Ou le divorce, ou la mort du mari. Alors de deux choses l'une. Ou bien tu divorces, ou bien la Mishnah s'applique. Et il n'a pas voulu divorcer. Et d'après l'histoire, la Mishnah s'est appliquée. Mais c'était une anecdote, bien entendu. En tout cas, pour revenir à notre problème, la Gemara dit très clairement que si le sujet de la procédure dans la première Mishnah, c'est la femme, dans le fait qu'elle accepte la bague, comme Réphron avait accepté l'argent du champ, alors il y a mariage par acquisition pour le mari. Si elle n'accepte pas, le mariage n'a aucune valeur légale. Alors, vous comprenez bien que, avec le temps, tout cela s'est très dilué dans la liturgie habituelle lorsque le rabbin montre la bague à deux témoins et qu'il leur demande « Vérifiez que c'est bien de l'or. » Qu'est-ce qu'il veut demander? Bien sûr, tout le monde sait que c'est de l'or. En général, on a dépensé plus d'argent pour le photographe ou pour le coiffeur que pour acheter la bague. Dans tous les cas, c'est au moins de l'or. Et de quoi il s'agit? Il s'agit, au niveau de la Gemara, de cette question très profonde. Est-ce que la bague, le kesef, par laquelle tu demandes cette femme en mariage, et elle va accepter le cas échéant, désigne une nature de désir telle que cela vaille la peine que Haïcha Neknet, c'est-à-dire que la femme accepte cette bague. Bien sûr, on a oublié tout cela, mais il n'en reste pas moins que le sens de la procédure est à ce niveau. Et malgré cela, la Guémara nous a fait comprendre que, en principe, ce genre de mariage n'était pas habilité. Et que c'est la raison pour laquelle, au lieu de dire « prendre », comme avait dit la Torah, il a fallu dire « habiliter »,« acquérir », à cause de cette motivation de « kisouf », c'est-à-dire de « désir ». Effectivement, la suite de la Gemara, c'est « veiba etema », et si tu veux, je dirais « itana kone ». Si la Mishnah avait dit que c'est l'homme qui est le sujet, « haish kone », au lieu de dire « haish anikni », Hava Amina, Arfiluba al-Korha, j'aurais pu supposer, même contre son gré, même malgré elle, Tana Haisha Niknit, la Mishnah enseignait, la femme est acquise, donc la femme, sujet de la procédure, de Midarta Ein, Shelo Midarta Lo. Ça veut dire, avec son consentement, oui, selon son consentement, sans son consentement, non. Donc on voit ici aussi que la directive de la Gemara a établi que la halakha est déduite de l'étude de la forme même de la Mishnah. C'est-à-dire, si la Mishnah dit « Haisha niknet », la femme est acquise, mettant la femme comme sujet, c'était pour indiquer qu'il fallait qu'elle consente à être l'objet du désir. Eh bien, voilà donc, après ce premier survol, qu'il apparaît bien que la Gemara a une conception du mariage qui transparaît à travers l'élaboration du rite, l'élaboration du geste liturgique. Revenons à Rashi. Rashi avait dit « Haisha niknet le barla ». Vous vous rappelez de cette difficulté? La femme est acquise à son mari. Et la Gemara nous a dit, il y a deux formules. Soit Haisha Niknet, la femme est acquise, soit Haish Mekadesh, l'homme consacre sa femme. Après toute cette discussion que nous avons suivie très rapidement, il apparaît que si la première Mishnah s'est exprimée comme elle l'a fait, c'est-à-dire en mettant la femme comme sujet, c'était pour indiquer qu'elle devait être consentante à l'acte d'acquisition, en se référant à l'exemple qui était donné avec Abraham et Hébron. Si nous revenons à Rashi, alors on peut éclairer le terme employé par Rashi. Nous avons un enseignement des prophètes qui dit qu'un jour, Israël dira à Dieu, « Tu n'es plus mon Baal, mais tu es mon Ish. » Il y a une différence entre Baal et Ish. Et je crois que vous avez déjà compris. Et Baal, ça veut dire le mari en tant qu'il est le sujet de la première Mishnah, c'est-à-dire celui qui acquiert une femme, comme on acquiert un objet, à condition que l'objet soit consentant, mais à certaines conditions. Baal, le possesseur. D'accord ? Et bien alors, de deux choses l'une, dit la Mishnah, ou bien à certaines conditions, ce mariage par motivation de kisouf, de désir, réussira à devenir un mariage vraiment, et le baral deviendra ish, c'est-à-dire le mari deviendra époux, et bien ça sera très bien. Et c'est une des trois procédures par lesquelles la femme s'acquiert elle-même, ou bien ça ne réussit pas. Alors il n'y a que deux solutions, get, et comme dit la, ou comme dit la Mishnah, le divorce, ou comme dit la Mishnah, mitata baral. Vous voyez que Rashi a lu la Mishnah, c'est-à-dire la mort du baral. La Mishnah n'a pas dit la mort mitataish, la mort de l'époux, elle a dit la mort du baral, c'est-à-dire la mort du mari selon la première instance. C'est clair? Donc. Avec Rashi, finalement, était très simple, quand même. C'est-à-dire que cette expression de mitata baal ne désigne pas seulement le veuvage, où le mari meurt vraiment, le pauvre, mais aussi le divorce, et aussi le mariage réussi. Parce que mitata baal, ça veut dire que le baal meurt en tant que baal et devient ish. Première éventualité, le mariage réussi. Deuxième éventualité, le divorce, il n'y a plus de baal. Et puis troisièmement, mitata baal, métaphysiquement, enfin vraiment, c'est-à-dire la mort du mari. Enfin, de, bon, vous avez compris. Mais au fond, quand même, on n'a pas encore compris pourquoi la Mishnah avait dit par trois procédures, en employant le terme de trois au féminin, puisque c'était la première question. Eh bien, nous allons aborder ce deuxième problème, mais avant, je voudrais quand même constater qu'il est déjà 11h15 et que... Alors, je vais très vite, mais pas dans le détail du texte, très rapide. La Gemara nous dit que lorsque l'hébreu emploie ce terme de derer, procédure, manière de se conduire, voie, V-O-I-E, manière d'être, c'est soit employé au féminin, soit employé au masculin. Effectivement, lorsqu'on se réfère au vocabulaire biblique, on s'aperçoit que l'hébreu emploie tantôt ce mot de derer au masculin, tantôt le mot de derer au féminin. Et la Gemara cite des versets. Apparemment, il s'agit d'une question d'exégèse grammaticale, mais en fait, c'est un peu plus profond. Chaque fois que la Torah emploie le mot de derer au masculin, ça veut dire la guerre. Et chaque fois qu'elle emploie le mot de derer au féminin, ça veut dire la Torah. Et elle emploie des versets. Pour cela, et même, elle démontre que derer au féminin signifie la Torah, parce qu'il est écrit Torah tachem temima meshivat nafesh. La Torah de Dieu est pure, elle ramène la personne, ça veut dire elle fait revivre meshivat nafesh, pour dire que derer qui signifie Torah est toujours employé au féminin, parce que Torah est au féminin, et que pour cela il faut citer un verset, que la Torah est bien au féminin, puisqu'il est dit Torah Tachem Temima, Meshivat Nafesh. Vous le trouverez dans la suite de la Gemara. Alors revenons très brièvement à l'analyse de la Mishnah. La Mishnah a dit Haisha Niknet, la femme est acquise par l'homme par trois procédures. Mais les trois procédures doivent être au féminin. Et l'étonnement des commentateurs, c'est qu'en général, lorsque la Torah s'adresse par un commandement à la créature, elle emploie toujours le commandement au masculin. C'est-à-dire, s'il y a une procédure de réaliser une mitzvah, derer devrait être au masculin. Parce que, kol haTorah kula, bilshon zachar ne'emra. La Torah a tout été entière adressée comme commandement à l'homme et non pas à la femme. Si la femme est soumise à la Torah, si la Torah s'adresse à la femme, c'est par le biais de son mari, nous dit cette Gemara. Bien entendu, la femme est soumise au commandement de la Torah, mais de telle sorte que l'homme, Adam, qui récapitule le couple Isha, puisse réaliser la Torah. Mais l'aspect commandement s'adresse au Zachar. Alors, on est en présence d'un paradoxe. Voici une Mishnah qui dit que la procédure d'accomplissement d'une mitzvah doit être féminine, derer au féminin, shalosh et pas shlosha. Et pourtant, chaque commandement s'adresse au zachar, à l'homme en tant que mâle, et non pas femelle. C'est un deuxième niveau de la difficulté de la forme de cette formule. Et la Gemara va nous faire comprendre qu'il y a à l'intérieur du couple humain, au niveau du premier homme, une division entre Nefesh et Etzem, entre la personne, le fait d'être quelqu'un, avoir un Nefesh, et Etzem, l'essence de la nature humaine. À l'origine, l'homme possède le Etzem, c'est-à-dire l'essence de la nature humaine, mais ne possède pas le Nefesh, l'individualité. La femme possède le Nefesh, l'individualité, puisque c'est elle qui engendre, et ne possède pas le Etzem. Pour être vraiment Adam, il faut avoir simultanément Nefesh et Etzem, c'est-à-dire l'identité de la nature humaine, Etzem, l'essence, et Nefesh, l'individualité. Mais lorsque Dieu a séparé, au niveau du premier homme, homme et femme, cette séparation a pour résultat que le Nefesh est chez la femme et le Etzem est chez l'homme. Et vous avez d'ailleurs un verset de la Bible qui dit « Zot aparam, Etzem mi'atzamai, basar mi'besari, ve Etzem mi'atzamai. » C'est qu'au niveau du premier mariage, il y a un échange d'identité. L'homme acquiert son Nefesh et donne à la femme son Etzem. C'est pourquoi la Gemara indique ce verset de la procédure de la Torah, « Torah tachem temima, meshivat nafesh ». D'où apprenons-nous que la procédure par laquelle l'homme doit prendre femme est une procédure elle-même féminine, c'est-à-dire à la manière de la Torah? C'est du verset qui dit que la Torah ramène le nefesh à l'homme. De la même manière, la femme ramène le nefesh à l'homme. Et par ce biais, la femme acquiert son etzem. Pour revenir à la Mishnah, cela signifie que la femme dispose de trois stratégies pour acquérir son etzem. La première est le mariage. Pendant que l'homme acquiert son nefesh, elle acquiert son etzem. Si le mariage réussit, c'est bien. S'il échoue, il y a encore deux autres procédures pour la femme, le divorce et la mort du mari. J'aurais voulu d'ailleurs analyser plus longuement cette deuxième partie d'après la Gemara autant que la première, mais enfin c'était l'essentiel. En fait, si la Gemara s'interroge sur un problème de grammaire, pourquoi Shalosh est au féminin au lieu d'être au masculin, c'est parce qu'elle veut indiquer un problème très important. Entre l'homme et la femme, il y a deux éventualités, soit derer sous forme de guerre, alors derer serait au masculin, soit derer sous forme de Torah, c'est-à-dire solution du problème de relation à autrui, et là, derer est au féminin, de telle sorte qu'il y ait échange d'identité, l'homme acquiert son nefesh et donne le etzem à sa femme. Enfin, voilà grosso modo très rapidement ce qu'il apparaît de ce premier thème. Bien entendu, j'ai bien conscience qu'il aurait fallu plusieurs heures pour arriver à élucider chaque détail, mais je voulais quand même vous donner une illustration de ce que nous pouvons apprendre à travers une étude talmudique des thèmes de l'enseignement de la Torah. Je voudrais quand même généraliser ce problème de la manière suivante. Actuellement, nous baignons dans une civilisation qui se pose ce problème. C'est le problème de la relation à autrui. Et d'après la Torah, la relation à autrui commence à ce niveau, c'est-à-dire dans le rapport entre Adam et Chava, dans le rapport entre Zahar et Nekeva, dans le rapport finalement du mariage. Et cette Gemara, qui a été mise par écrit il y a très longtemps, et qui implique d'ailleurs tous les problèmes que j'ai essayé de vous suggérer en passant, cette Gemara pose une équation très claire. Ou bien, le rapport d'autrui à autrui est un rapport d'agressivité, c'est-à-dire, derer est au masculin et c'est la guerre. Ou bien, c'est un rapport de moralité, et alors, derer est au féminin et c'est la Torah. Je crois, en schématisant beaucoup, que l'on peut dire que l'ambiance morale, politique, sociologique, philosophique de la civilisation dans laquelle nous vivons a choisi pour derrière de la première manière, c'est-à-dire le rapport d'agressivité. Ça commence pas seulement à la dialectique de Hegel, qui ne connaît que le rapport d'autrui à autrui, le rapport de maître à esclave ou de esclave à maître. C'est-à-dire que, si je me souviens bien de cette analyse, vous l'avez sûrement en mémoire, que la différence entre l'animal et l'homme, c'est que l'animal désire un objet, alors que l'homme désire un désir. Et nous sommes bien dans le problème de Kesef qui souffre derrière féminin, derrière masculin. Ça ne veut pas dire que Hegel a lu la Gemara, mais ça veut dire que la Gemara a lu ce dont parle Hegel. Ou bien, effectivement, la relation des désirs se transforme en guerre, c'est-à-dire en relation de maître à esclave. Ou bien, la relation de désir est aménagée en derrière Torah au féminin, c'est-à-dire qu'il existe un ordre des valeurs, un ordre de règles, où le problème de l'altérité, le problème de la relation à autrui peut être résolu. Et le premier exemple que nous donne la Torah et la Gemara est celui du mariage. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs. Et nous pouvons philosophiquement supposer qu'il s'agit là de deux hypothèses possibles. C'est-à-dire que les deux sortes de derrière seraient possibles et que chacun choisit par postulat. Que derrière serait au masculin et cela signifie la guerre, l'agressivité, ou bien que derrière est au féminin et cela signifie la Torah, c'est-à-dire la tentative d'un aménagement des relations d'autrui à autrui selon un ordre moral. Ce que je voudrais quand même indiquer, c'est que par le biais de cette analyse très, très rapide, en réalité notre tradition connaît les deux éventualités et qu'elle a choisi radicalement pour l'une contre l'autre. En prenant pour exemple de base le problème fondamental de l'altérité, c'est-à-dire la relation des sexes. Lorsque la Mishnah, dès le début, et tout cela était pour en arriver là, lorsque la Mishnah a dit dès le début, Haïcha, sujet, Niknet, et la Torah avait dit Nilkechet, Beshalosh, au lieu de Shlosha, Drachim, au lieu de Devarim, c'est la suite de la Gemara. Et il n'y avait pas du tout une espèce de thème d'exégèse pour grammairien, ou pour exégète. Il y avait la formulation dans le langage de la sagesse hébraïque d'un thème de sagesse. Et lorsque nous étudions dans les yeshivot, dans les écoles talmudiques, à travers les siècles et jusqu'à aujourd'hui, ces textes, ce n'est pas du tout pour, pour étudier des textes pieux, c'est pour nous initier à travers la formulation hébraïque telle qu'elle a été léguée aux juifs, à la sagesse révélée au Sinaï. J'ai été très maladroit, très imparfait, pour essayer de vous en donner une petite idée, mais je pense que c'était l'essentiel. Il y a derrière cette analyse linguistique et logique, il y a un thème de Torah qui apparaît. Ne croyez pas qu'à travers les siècles, les juifs et leurs rabbins ont fait de l'exégèse. Ce n'est pas du tout le cas. Ils se sont transmis des formules qui véhiculent une conception du monde. Alors, si j'ai réussi à vous le communiquer, vous oublierez tous les détails, ils n'avaient pas tellement d'importance, vous retiendrez la méthode et vous déciderez de rentrer à Jérusalem.